Chapitre 9. En 1611, un prêtre de Provence, nommé Louis Gaufridi, fut accusé d'avoir ensorcelé une jeune fille. La fille était noble et s'appelait Madeleine de la Palude. La procédure du procès existe. On y trouve détaillés des faits de possession aussi nombreux qu'extraordinaires. La science moderne, qui a pris connaissance de ces faits et qui les explique ou croit les expliquer, ne trouvera jamais le secret de l'influence d'un être humain sur un autre être humain dans des proportions aussi colossales. En vain prononce-t-on le mot d'amour. On veut éclairer un abîme par un second abîme qu'on creuse dans le fond du premier. Qu'est-ce que l'amour? Et comment et pourquoi naît-il dans les âmes? Madeleine de la Palude, qui appartenait à la société éclairée de son époque, déposa que Gaufridi l'avait ensorcelée seulement en lui soufflant sur le front. Gaufridi était jeune encore, il était beau, il était surtout éloquent. Shakespeare a écrit quelque part « Je mépriserais l'homme qui, avec une langue, ne persuaderait pas à une femme ce qu'il voudrait. » Et d'ailleurs, que les motifs de l'abbé Gaufridi fussent d'un fanatique, d'un insensé ou d'un homme qui faisait habilement servir le diable à ses passions, qu'ils fussent purs ou impurs, qu'importe. Il avait voulu exercer une action énergique sur Madeleine de la Palude, et on sait la magie invincible, le coup de baguette de la volonté. Mais l'abbé de la Croix-Jugan était, comme il le disait lui-même, un restant de torture. Il effrayait et tourmentait le regard. Il ne voulait pas, il n'a jamais voulu inspirer à Jeanne de la haine ou de l'amour. La comtesse de Mont-sur-Vent m'a juré ses grands dieux que malgré les bruits qui coururent et dont maître Tenbouy avait été pour moi l'écho, elle le croyait parfaitement innocent du malheur de Jeanne. Seulement, ce que la vieille comtesse croyait savoir parce qu'elle avait connu l'ancien moine, les gens de Blanchelande l'ignoraient. Et c'est surtout ce qu'on ne comprend pas qu'on explique. L'esprit humain se venge de ses ignorances par ses erreurs. D'un autre côté, la vie de l'abbé de la Croix-Jugan prêtait merveilleusement aux imaginations étranges. Il avait, ainsi que l'avait dit Barbe Causseron, la servante du curé, fiefé la maison du bonhomme Bouette, auprès des ruines de l'abbaye, et il y vivait solitaire comme le plus sauvage hibou qui ait jamais habité un tronc d'arbre creux. Le jour, on ne l'apercevait guère qu'à l'église de Blanchelande, enroulé comme le premier jour qu'on l'y vit, dans le capuchon de son manteau noir qu'il portait par-dessus son rochet, et dont les plis profonds comme des cannelures lui donnaient quelque chose de sculpté et de monumental. Toujours sous le coup d'une punition épiscopale, pour avoir manqué aux cinq canons et à l'esprit de son état en guerroyant avec un fanatisme qu'on accusait d'avoir été sanguinaire, il ne lui était permis ni de dire la messe, ni de confesser. L'Église, qui a le génie de la pénitence, lui avait infligé la plus sévère en lui interdisant les grandes fonctions militantes du prêtre. Il était tenu seulement d'assister à tous les offices, sans étole, et il n'y manquait jamais. Or, les jours fériés, où il venait à l'église de Blanchelande, on ne le rencontrait guère dans les environs que de nuit ou au crépuscule. Ancienne habitude de chouan, disaient les uns. Noire mélancolie, disaient les autres. Chose singulière et suspecte, disaient à peu près tous. Quelques esprits, à qui les circonstances politiques d'alors donnaient une défiance raisonneuse, prétendait que cet abbé soldat, toujours dangereux, cachait des projets de conspiration et de reprise de guerre civile dans sa solitude, et que cet isolement calculé servait à voiler des absences, des voyages et des entrevues avec des hommes de son parti. « Qui a bu boira, disaient les sages. Par exception à leur immémorial usage, Peut-être que les sages ne se trompaient pas. D'un dimanche à l'autre, on voyait la petite maison de l'abbé de la Croix-Jugan, fenêtres et portes strictement fermées. Nul bruit ne se faisait entendre de l'écurie, où son cheval entier hennissait, se secouait et frappait si fort la dalle de ses pieds ferrés, quand il y était, qu'on l'entendait à 30 pas de là sur la route. Les malins qui passaient le long de cette maison, mornes et muettes, se disaient tout bas avec une brusquerie cynique « Il fait plus de pèlerinage que de prière, cet enragé moine-là. » Mais le dimanche suivant, les malins retrouvaient le noir capuchon dans la stalle de chêne avec la ponctualité rigide et scrupuleuse du prêtre et du pénitent. Or, il y avait un peu plus d'un an que le mystérieux abbé menait cette vie impénétrable, quand un soir de Vendredi Saint, après ténèbres, deux femmes qui sortaient de l'église et qui se dirent bonsoir à la grille du cimetière prirent en causant le chemin du bourg. L'une d'elles était Nonon Cocouan, la couturière en journée. L'autre, Barbe Causseron, la servante de l'honnête curé Caïmer. C'étaient toutes les deux ce qu'on appelle des langues bien pendues, qui lapent avidement toutes les nouvelles et tous les propos d'une contrée, et les rejettent tellement mêlées à leurs inventions de bavardes que le diable, avec toute sa chimie, ne saurait comment s'y prendre pour les filtrer. Barbe était plus âgée que Nonon. Elle n'avait jamais eu la beauté de la couturière. Aussi, servante de curé dès sa jeunesse, à cause du peu de tentations qu'elle aurait offertes aux imaginations les moins vertueuses, elle avait le sentiment de son importance personnelle. Et plus qu'avec personne, ce sentiment s'exaltait-il avec une dévote comme l'était Nonon. Elle approchait de messieurs les prêtres, disait Nonon avec une envie respectueuse. Ce mot-là éclairait bien leur relation. Que n'eût-elle pas donné, Nonon Cocouan, pour être à la place de Barbe Causseron? Eût-elle dû en prendre par-dessus le marché le bec pincé, les reins de manche à balai et le teint jaune, sec et fripé comme une guaisette de l'année dernière? La Barbe Causseron, cette insupportable précieuse de cuisine, avait des manières si endoctrinantes de dire « ma fille » à Nonon Cocouan, que celle-ci ne les eût probablement point souffertes sans cette grande position qui lui consacrait Barbe d'approcher messieurs les prêtres, et qui était pour elle la chimère caressée dans son cœur des derniers jours de sa vieillesse, car Nonon voulait mourir servante de curé. Barbe, dit Nonon avec cet air de mystère qui précède tout commérage chez les dévotes. Vous qui êtes d'église, ma très chère fille, est-ce que notre vénérable seigneur de Coutances a relevé de son interdiction monsieur l'abbé de la Croix-Jugan? D'abord, ma fille, il n'est pas interdit, il n'est que suspens, répondit la Causseron, avec un air de renseignement et de savoir qui faisait de sa coiffe plate le plus bouffon des bonnets de docteur. Mais, Nenni, point que je sache, ma fille, la suspense est toujours maintinte. Nous n'avons rien reçu de l'évêché. Il y a plus de 15 jours que le piéton n'a rien apporté au presbytère, et m'est avis que les pouvoirs, s'ils étaient remis à monsieur l'abbé de la Croix-Jugan, passeraient par les mains de monsieur le curé de Blanchelande. Il n'y a pas là-dessus la seule difficulté. Et Barbe se rengorgea sur ce mot, pris au vicaire de la paroisse, qui le bredouillait et enfermait toutes ses démonstrations en chair, quand la difficulté qu'il niait commençait de lui apparaître. C'est drôle alors, fit Nonon, marchant de conserve avec Barbe et comme se parlant à elle-même. Qui, drôle? Repartit Barbe curieuse, avec un filet de vinaigre rosa dans la voix. C'est que, dit Nonon en se rapprochant comme si les haies des deux bords du chemin avaient eu des oreilles. C'est que j'ai vu, il n'y a qu'un moment, maîtresse le Hardouet, qui n'était point dans son banc pendant qu'on a chanté Ténèbres, se glisser dans la sacristie, et je suis sûre et certaine qu'il n'y avait dans la sacristie que monsieur l'abbé de la Croix-Jugan. Où vous serez trompée, ma fille, répondit Barbe compendieusement, et les yeux baissés avec discrétion. Nenni, Finonon. Je l'ai parfaitement vu, et comme je vous vois, Barbe, j'étais toute seule dans la nef, et ce qui est resté de monde après ténèbres priait au sépulcre. Les deux confessionnaux de la chapelle de la Vierge et du bas de l'église étaient pleins. Vous savez qu'il y en a un autre tout vermoulu auprès des fonds, qui servait dans le temps à feu le curé de Neuménil quand il venait confesser ses pratiques à Blanchelande. Le custod y enferme à présent des bouts de cierge brûlés et les chandeliers de cuivre qui ont été remplacés par les chandeliers d'argent. Eh bien, sur mon salut éternel, croyez-le si vous voulez maintenant, maîtresse le Hardouet est sortie de là, bien enveloppée dans sa pelisse, et a gagné tout doucement, à petits pas et en chaussons, par la contre-allée, le cœur de l'église, où monsieur l'abbé de la Croix-Jugan faisait sa méditation dans sa stalle. Et pour lors, il s'est levé, et ils s'en sont allés dans la sacristie tous les deux. « Si vous êtes bien sûr de l'avoir vu, » reprit Barbe, qui ne voulait pas nier une minute de plus ce qu'elle grillait d'envie de croire vrai. « Je dis comme vous, Nonon, que c'est un peu étonnant, ça. Car quelle affaire peut avoir maîtresse le Hardouet avec l'abbé de la Croix-Jugan, qui ne confesse pas et qui ne parle pas à trois personnes en exceptant monsieur le curé ?»« Vert, » dit Nonon, « c'est la pure vérité ce que vous dites. » Mais voulez-vous que de trois personnes à qui il parle, je vous en nomme deux, auxquelles il cause plus souvent peut-être que vous ne pensez ? Barbe s'arrêta dans le chemin et regardant Nonon comme une vieille chatte qui regarde une jatte de crème. « Vous êtes donc instruite, » fit-elle avec une papelardise ineffable. « Ah, ma chère Barbe, » s'écria Nonon, « je suis couturière à la journée. » « Je n'ai pas comme vous le bonheur et l'honneur, » ajouta-t-elle en parenthèse ravisée, « de rester dans un presbytère toute la semaine des 7 jours du bon Dieu, à soigner le dîner de messieurs les prêtres et à raccommoder les effets de monsieur le curé. Il faut que je me lève matin et que je revienne tard à Blanchelande. Je suis obligée de trotter partout, dans les environs pour de l'ouvrage, et voilà pourquoi je sais et j'apprends bien des choses que vous, avec tous vos mérites, ma chère et respectable fille, vous ne pouvez réellement pas savoir. Est-ce que vous avez appris quelque chose, dit Barbe, que la curiosité démangeait et commençait de cuire, ayant rapport à maîtresse le Hardouet et à l'abbé de la Croix-Jugan ? Oh, rien du tout, répondit Nonon, qui aimait au fond Jeanne-Madeleine, mais qui cédait au besoin de commérer, ancré au cœur de toutes les femmes. Seulement l'abbé de la Croix-Jugan et maîtresse le Hardouet se connaissent plus qu'ils ne paraissent, c'est moi qui vous le dis. L'abbé, qui est un ancien chouan et un seigneur, ne met pas bien entendu le bout de son pied chez un acquéreur de biens d'église comme ce le Hardouet. Mais il voit Jeanne-Madeleine, qui est une feu ardent, une fille de condition, chez la vieille Clotte. Et c'est bien souvent qu'il y va et qu'il y rencontre, m'a conté la petite Ingou, qu'on envoie à l'école dès qu'ils arrivent ou à jouer au calouet toute seule au fond du courtil. Chez la vieille Clotte, fit Barbe Causseron, atroce comme une fille qui pendant toute sa vie n'a jamais senti le cruel bonheur d'avoir un cœur aimé du sien et à qui la faute et la douleur n'ont point appris la miséricorde. Chez cette Marie, je t'en prie, malade de ses vices, joli lieu de rendez-vous pour un prêtre et une femme mariée. « Pas possible, ma chère, ce serait une chose trop affreuse, par exemple. Je ne la croirais, celle-là, que quand je l'aurais vue. Il n'y a pas sur ça la seule difficulté. » « Mon Dieu, Barbe, » repartit Nonon, qui était bonne, elle, comme un reste de belle fille indulgente. « Le mal n'est pas si grand, après tout. On ne peut pas avoir de mauvaises pensées sur cet abbé qui ferait plus peur qu'autre chose à une femme avec son visage dévoré. » Jamais, au grand jamais, on n'a rien dit de Jeanne. Sa réputation est nette comme l'or. Et pourtant, il y a eu bien des jeunes gens amoureux d'elle, soit ici, à Blanchelande, soit à l'essai. Si donc il se voit chez la Clotte, c'est qu'il y a peut-être là-dessous quelques manigances de chouannerie. La Clotte a été suspectée d'être une chouanne dans le temps. Et vous vous rappelez qu'ils l'ont ousée, comme on disait alors, sur la place du marché. Il croit pouvoir se fier à elle pour quelque chose qui tient à cette chouannerie, mais il n'y a pas d'autre mal que ça à penser, bien sûr. C'est égal, dit la Causeron, restée défiante, quoiqu'elle ne trouvât pas de réponse au raisonnement très sensé de Nonon. Je dois avertir monsieur le curé tout de même. Si c'est ce que vous dites, la sacristie de l'église de Blanchelande ne doit pas être un nid à chouans qui se cache. Et d'ailleurs, pourquoi toute cette chouannerie qui n'a que trop duré, maintenant que les églises sont rouvertes et que nous ravons nos curés? Ce prêtre m'a toujours épeuré, fit-elle. On dit de lui bien des choses terribles. Il ferait mettre à sac tout Blanchelande avec ses comploteries contre le gouvernement. S'il était vraiment pénitent, depuis le temps, Monseigneur l'évêque lui aurait remis ses pouvoirs de confesser et de dire la messe. Il faut qu'il soit bien enragé, au contraire, puisqu'il entraîne une femme comme maîtresse le Hardouet dans son péché. Mon doux Jésus, qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir fait, tous deux, dans la sacristie? Et peut-être en ce moment qu'ils y sont encore. Ah, certainement j'en parlerai à monsieur le curé, et dès ce soir, en lui servant sa collation de jeûne. Ne m'en détournez pas. Adieu, ma fille, je suis tenue en conscience, et sous peine de péché mortel, d'avertir monsieur le curé de ce qui se passe. Il n'y a pas là-dessus la seule difficulté. Et après avoir lâché ce flux saccadé de paroles, elle se mit à trottiner sous le vent qui la poussait, un vent sec et froid de semaine sainte, qui n'avait cessé de souffler aux jupes et aux mantelets de nos deux flanières, et qui emporta leurs propos par-dessus les haies. En effet, c'est à partir de cette journée qu'à l'Essai et à Blanchelande, on commença de joindre ensemble les noms de Jeanne le Hardouet et de l'abbé de la Croix-Jugan. Nonon Coucouan ne s'était pas trompée. Elle avait très bien vu Jeanne le Hardouet entrer dans la sacristie de l'église de Blanchelande, et elle avait très bien deviné, avec son bon sens dépourvu de malice, que quelque chouannerie couvait là-dessous. C'était de cela qu'il retournait, en effet. L'abbé de la Croix-Jugan faisait depuis plus de 6 mois servir Jeanne le Hardouet à ses desseins. Il la voyait fréquemment chez la Clotte. Il avait jugé, sans doute, avec ce regard suraigu des hommes appelés à gouverner les autres hommes, car d'après toutes les observations de la comtesse de Montsurvent, il était de cette race-là, le profit qu'il pouvait tirer de Jeanne Madeleine. Mariée comme elle l'était à un cultivateur herbager, elle pouvait, sous prétexte d'aller au marché de Coutances et aux foires du pays, porter des lettres, des informations, des signaux convenus au chef du parti royaliste caché ou dispersé dans les environs. Qui aurait suspecté une femme dans la position de Jeanne, laquelle continuait de faire, et sans plus, ce qu'elle avait fait toute sa vie? D'un autre côté, par la nature ferme de son âme, par le souvenir ardent et fier de sa naissance, par l'humiliation de son mariage, par les sentiments nouveaux et extraordinaires qu'il voyait en elle et qui entr'ouvraient de temps en temps ce masque rouge de sang extravasé que les révoltes d'un cœur trop concentré avaient moulé sur son visage, Jeanne offrait à l'abbé de la Croix-Jugan un instrument que rien ne fausserait, et il l'avait saisi comme tel. Ce Jéhoël qui, à 18 ans, était resté muet et indifférent à l'amour fauve et sans frein d'Adélaïde Malgie, le moine blanc et pâle qui semblait l'archange impassible de l'orgie, tombé du ciel mais relevé au milieu de ceux qui chancelaient autour de lui, devait être un de ces hommes mauvais à rencontrer dans la vie pour les cœurs tendres qui savent aimer. C'était une de ces âmes tout en esprit et en volonté, composée avec un éther implacable dont la pureté tue et qui n'étreigne dans leurs ardeurs de feu blanc comme le feu mystique que des choses invisibles, une cause, une idée, un pouvoir, une patrie. Les femmes, leurs affections, leurs destinées ne pèsent rien dans les vastes mains de ces hommes, vides ou pleines des mondes qui les doivent remplir. Or, par cela même qu'il était tout cela, Jéhoël ne pouvait-il donc pas, dans l'intérêt de la cause à laquelle il s'était dévoué, Et quoique prêtre, et quoiqu'il n'eût pas voulu inspirer à Jeanne une passion coupable, souffler de ses lèvres de marbre dans la forge allumée de ce cœur qui se fondait pour lui, malgré sa force, comme le fer finit par devenir fusible dans la flamme. Car il faut bien le dire, il faut bien lâcher le grand mot que j'ai retardé si longtemps. Jeanne Madeleine aimait d'amour l'abbé Géoël de la Croix-Jugan. Que si, au lieu d'être une histoire, ceci avait le malheur d'être un roman, je serais forcée de sacrifier un peu de la vérité à la vraisemblance, et de montrer au moins, pour que cet amour ne fût pas traité d'impossible, comment et par quelles attractions une femme bien organisée, saine d'esprit, d'une âme forte et pure, avait pu s'éprendre du monstrueux défiguré de la fosse. Je me trouverais obligée d'insister beaucoup sur la nature virile de Jeanne, de cette brave et simple femme d'action, pour qui le mot familièrement héroïque « un homme est toujours assez beau quand il ne fait pas peur à son cheval » semblait avoir été inventé. Dieu merci, toute cette psychologie est inutile. Je ne suis qu'un simple conteur. L'amour de Jeanne, que je n'ai point à justifier, qu'il fût venu à travers l'horreur, à travers la pitié, à travers l'admiration, à travers 20 sentiments, impulsions ou obstacles, possédait le cœur de cette femme avec la furie d'une passion qui, comme la mer, a dévoré tout ce qui barrait son passage. Et cet amour, auquel avait résisté longtemps Jeanne Madeleine, commençait enfin d'apparaître aux yeux les moins clairvoyants. Extraordinaire, même pour ceux à qui la réflexion enseigne quelle aliénation de toutes les facultés humaines est l'amour, que ne dut-il pas être pour les esprits qui entouraient Jeanne, pour tous ces paysans cotentinais parmi lesquels elle vivait. À ses propres yeux même, Jeanne Madeleine dut pendant longtemps, ainsi qu'on l'a cru et qu'on le croyait encore du temps de Maître Tenbouille, être ensorcelée. La prédiction menaçante du berger s'était peu à peu enfoncée dans son âme. D'abord elle en avait bravé et insulté l'influence, mais la force de ce qu'elle éprouvait l'y fit croire. Autrement elle n'aurait rien compris à tout ce qui se passait en elle. Quand elle pensait à l'objet de son amour, « Suis-je dépravée ?» se disait-elle. Et ce doute rendait son amour plus profond, plus marqué du caractère de la bête dont il est parlé dans l'Apocalypse, et qui, pour les âmes, est le sceau de la damnation éternelle. L'histoire de la Malgie ne lui sortait point de la pensée. Elle se croyait réservée à une fin pareille. Mais d'une autre trempe que cette fille violente et faible, elle s'était imposé le devoir de cacher la passion qui la minait et de ne révéler à personne l'énigme cruelle de sa vie. Illusion commune aux âmes fortes. On croit pouvoir cacher la folie de son cœur, et de fait, on la dissimule pendant un laps de temps qui use la vie. Mais tout à coup, voilà que la honteuse folie apparut. Voilà que tout le monde en parle et que chacun s'en récrie, sans qu'on sache même comment pareille chose a pu arriver. Et pour Jeanne, ce moment-là était venu. À dater de cette première révélation faite à la servante du curé Caïmer par Nonon Coucouan, des bruits vagues, un mot dit par-ci et par-là, des souffles plutôt que des mots, mais des souffles qui vont tout à l'heure devenir un orage, commencèrent à circuler sur la pauvre Jeanne. D'abord on parla, comme Nonon, de chouannerie. Mais comme le pays resta tranquille, comme l'abbé de la Croix-Jugan ne fit aucune démonstration extérieure qui prouva que le chef de Chouan, toujours soupçonné en lui, malgré son attitude de pénitent, vivait et agissait, on perdit peu à peu l'idée qu'on avait eue d'abord, pour expliquer les espèces de relations qui existaient entre lui et maîtresse le Hardouet. La cause royaliste était en effet désespérée, et les efforts de cette âme à la Witikinde, qui respirait sous le capuchon ténébreux de l'ancien moine, n'aboutirent jamais à réveiller autour de lui les âmes lassées des gentilshommes, ses compagnons d'armes. Les jours tombant les uns sur les autres sans amener d'événements, et les entrevues chez la Clotte entre l'abbé de la Croix-Jugan et Jeanne restant aussi fréquentes que par le passé, on vit des étonnements qui avaient l'air sournois des soupçons. « Ma foi, disait beaucoup de bonnes têtes, maîtresse Le Hardouët a beau être une fille de condition, une demoiselle de feu ardent, et l'abbé de la Croix-Jugan une face criblée et couturée, pire que si toutes les petites véroles de la terre y avaient passé. Le diable est bien malin, et si j'étais maître Thomas, je ne me soucierais guère des accointances de ma femme avec ce prêtre qui, malgré ses airs d'aujourd'hui, n'a jamais beaucoup tenu à sa robe, puisqu'il s'est défroqué si vite pour aller au chouan. » Ces sortes de réflexions, faites en passant, finirent par acquérir une consistance qu'involontairement la malheureuse Jeanne augmenta. Elle souffrait alors des peines cruelles. Elle était arrivée à cette crise de l'amour où les épreuves du dévouement ne suffisent plus à l'apaisement du sentiment qu'on éprouve. D'ailleurs, ces preuves elles-mêmes devenaient impossibles à donner. Elle avait multiplié pendant longtemps les courses les plus périlleuses pour le compte de cet abbé, qui ne pensait qu'à relever sa cause abattue, portant des dépêches à la faire fusiller, toute femme qu'elle fût, si elle eût été arrêtée. Quant à Blanchelande, on la croyait à Coutances pour quelque affaire de son mari. Elle était sur la côte qui n'est éloignée de l'essai que d'une faible distance, et elle remettait elle-même aux hommes intrépides qui, comme Quintal ou le fameux des Touches lui-même, portaient la correspondance du parti royaliste en Angleterre, les lettres de l'abbé de la Croix-Jugan. Cette vie aventureuse et qui la soutenait n'était plus possible. L'abbé avait perdu sa dernière espérance et il avait serré autour de lui, avec la rage qui autrefois avait armé son espingole, ce camail brûlant dans lequel il faudrait désormais mourir. Jeanne sentait bien que même l'œil de cet homme ne la regardait plus depuis qu'il avait été obligé d'abandonner ses desseins. Avec l'élévation de son caractère, et religieuse comme elle l'était, elle dut terriblement souffrir des mouvements désordonnés qui l'entraînaient vers ce prêtre dont l'âme était inaccessible. Elle se vit, au fond de son cœur, déshonorée. De tels supplices ne se gardent pas éternellement enfermés sous un tour de gorge, comme l'avait dit maître Tenbouy, et on ne put s'empêcher de les voir, malgré les efforts de Jeanne-Madeleine pour les cacher. Une fois aperçue, une fois cette grande question posée dans Blanchelande, « Qu'a donc cette pauvre maîtresse Le Hardouët ?» Dieu sait tout ce qu'on put ajouter. Sa pure renommée était flétrie. C'est précisément dans ce temps-là que maître Louis avait connu Jeanne. « Monsieur, me racontait-il avec des accents que je ne puis oublier. Je vous l'ai déjà dit, depuis bien longtemps avant cette époque, l'entendement n'y était plus, et elle avait bien l'air de ce qu'elle était. J'ai vu souvent qu'on lui parlait, et elle ne vous répondait pas, mais elle vous regardait d'un grand œil mort, comme celui d'une génisse abattue, elle, qui avait eu des yeux à casser toutes les vitres d'une cathédrale. Toute sa faisance valoir, qui était la plus considérable du pays, ne lui était de rien. Elle aimait encore à monter sa pouliche et aller au marché, mais à la maison, plus de femme, monsieur, plus de ménagère, plus de maîtresse Le Hardouët, mais une arbalète rompue, une anatomie dans un coin. Quand Le Hardouët, qui n'était pas, c'est vrai, une grande sorte d'homme, mais qu'il aimait à sa manière après tout, comme la suite ne l'a que trop prouvé, lui demandait ce qu'elle avait et pourquoi elle était comme ça. Elle disait qu'elle ne savait pas ce qui lui bouillait dans la tête. Et par le bœuf de la Sainte Crèche, elle était bien fondée à parler ainsi, car son visage avait l'air d'une fournaise verte, d'un four à chaud qui flambe dans la nuit. Je suis bien souvent restée devant à songer qu'elle était perdue. Maître Le Hardouët la conduisit lui-même et à plusieurs fois au médecin de Coutances. Mais les médecins ne pouvaient rien à ce qui n'était pas une maladie d'homme ou de femme, monsieur. Et à preuve que le malin était fourré là-dedans et qu'elle savait la griffe qui l'avait blessée et qui la tenait, c'est que le curé Caillemer lui conseilla de faire une neuvaine à la bonne Vierge de la Délivrande, et que religieuse comme elle l'avait toujours été, elle ne voulut pas. C'était là le dernier degré de sortilège et de misère, monsieur. Elle ne voulait pas guérir. Elle aimait le sort qu'on lui avait jeté. Les uns parlaient du berger du vieux Probitaire, les autres de l'abbé de la Croix-Jugan. Et croyez-moi, monsieur, c'était de terribles et hors de remarques qu'on faisait alors sur maîtresse le Hardouet, à Blanchelande, au bourg de l'Essai et plus loin. Et je n'ai jamais su bien tirer au clair ce qu'on racontait. Mais vrai comme nous v'là dans cette lande, pour qui comme moi, nombre de fois les vit à l'église, lui, cet abbé noir comme la nuée dans sa stalle, et elle, rouge comme le feu de la honte dans son banc, ne lisant plus dans son livre de messe, debout quand il fallait être assise, assise quand il fallait être à genoux, il n'y a pas moyen de penser que le maître de cette misérable ensorcelée ait été un autre que ce prêtre, qui semblait le démon en habit de prêtre, et qui s'en venait braver Dieu jusque dans le cœur de son église, sous la perche de son crucifix.